Comme dans un livre, Marie-Christine Loubry. Dracula, de Bram Stoker. Roman traduit de l'anglais par Lucienne Molitor. Journal du Dr Seward, 20 septembre. Ce soir, seule la volonté et aussi l'habitude me font reprendre ce journal. Je me sens malheureux, abattu, découragé, comme si j'en avais assez du monde et de tout, oui, de la vie elle-même, au point que l'ange de la mort me laisserait parfaitement impassible si je l'entendais en ce moment battre des ailes. Il est vrai que nous l'avons entendu passer ces derniers jours. D'abord la mère de Lucie, puis le père d'Arthur, et maintenant... Mais que je poursuive mon récit. Je retournais donc au chevet de Lucie pour permettre à Van Helsing d'aller se reposer. Tous deux, nous conseillâmes à Arthur d'en faire autant, mais d'abord, il refusa. Toutefois, lorsque je lui expliquai que nous aurions peut-être besoin de son aide au cours de la journée et qu'il nous fallait éviter que le manque de sommeil ajoutât encore à notre fatigue, il y consentit. Van Helsing se montra très bon pour lui. « Venez, mon enfant, lui dit-il, vous êtes épuisé par l'angoisse et le chagrin. Cela ne se comprend que trop. » Vous ne devez pas rester seul, car la solitude nourrit l'anxiété. Venez avec moi au salon, où il y a un bon feu et deux sofas. Vous vous étendrez sur l'un, moi sur l'autre, et d'être l'un près de l'autre nous réconfortera, même si nous ne nous parlons pas, même si nous nous endormons. » Arthur sortit de la chambre avec lui, non sans avoir arrêté longuement sur la pauvre Lucie, un regard douloureux et aimant. Elle restait immobile dans son lit et, semblait-il, dépérissait à vue d'œil. En regardant autour de moi, je m'aperçus que le professeur n'avait pas renoncé à utiliser les fleurs d'ail. Il en avait encore frotté les fenêtres, dans cette chambre comme dans l'autre. Partout, on en sentait fortement l'odeur. Et autour du cou de la jeune fille, par-dessus le mouchoir de soie qu'il voulait qu'elle gardât tout le temps, il en avait à la hâte tressé une nouvelle guirlande. Lucie n'avait jamais paru aussi mal. Sa respiration était caverneuse, sa bouche ouverte laissait continuellement voir ses gencives exsangues. Ses dents paraissaient plus longues, plus pointues encore que le matin même, et, à cause d'un certain effet de lumière, on avait l'impression que les canines étaient encore plus longues et plus pointues que les autres dents. Je venais de m'asseoir auprès du lit quand elle fit un mouvement comme si elle souffrait. Au moment même, quelque chose vint cogner contre la vitre. J'allais lentement jusqu'à la fenêtre, soulevais un coin du store et regardais. Il y avait un clair de lune, et je vis une grosse chauve-souris qui passait et repassait, sans doute attirée par la lumière, faible cependant, de la chambre à coucher. À tout moment, ses ailes venaient effleurer le carreau. Quand je revins m'asseoir près du lit, Lucie avait légèrement changé de position et avait rejeté les fleurs qui lui entouraient le cou. Je les remis aussi bien que je pus. Elle ne tarda pas à s'éveiller. J'essayai de lui faire prendre un peu de nourriture, comme Van Helsing me l'avait recommandé. C'est à peine si elle toucha à ce que je lui présentais. On eût dit que l'avait même abandonné maintenant cette force inconsciente qui, jusqu'ici, l'avait poussée à lutter contre la maladie, comme si elle avait voulu guérir à tout prix. Je fus frappé par le fait qu'au moment même où elle s'éveilla, elle serra contre elle la couronne de fleurs. Car, chose étrange, chaque fois qu'elle sombrait dans cet état léthargique où sa respiration devenait très difficile, elle écartait les fleurs. Chaque fois, au contraire, qu'elle s'éveillait ou était sur le point de s'éveiller, elle les saisissait comme si elle avait voulu les presser davantage contre elle. Il m'eût été impossible de me tromper à ce sujet. Durant les longues heures qui suivirent, à plusieurs reprises, elle se réveilla et se rendormit, et ce furent tour à tour les mêmes gestes. À 6 heures du soir, Van Helsing vint prendre ma place. Arthur s'était finalement assoupi et le professeur le laissa dormir. Quand il vit Lucie, j'entendis son petit sifflement. Il me dit tout bas, mais sur un ton vif, « Levez le store, j'ai besoin de voir clair. » Il se baissa, et son visage touchant presque celui de Lucie, il procéda à un examen minutieux. Pour ce faire, il écarta les fleurs, souleva le mouchoir de soie. Aussitôt, il sursauta et son cri s'étrangla dans sa gorge. « Mon Dieu !» À mon tour, je me penchai, et ce que je vis me fit frémir, assez étrangement. Les blessures à la gorge avaient complètement disparu. Pendant 5 minutes au moins, Van Helsing resta là à regarder la pauvre enfant, l'air plus consterné, plus grave que jamais. Puis, lentement, il se retourna vers moi et me dit avec calme « Elle est en train de mourir. Cela ne tardera plus maintenant. Mais, entendez-moi bien, qu'elle meure dans son sommeil ou non, ce ne sera pas tout à fait la même chose. Allez éveiller ce pauvre garçon, qu'il vienne la voir une dernière fois. Il attend que nous l'appelions. Nous le lui avons promis. » Je descendis dans la salle à manger et j'éveillai Arthur. Il lui fallut un bon moment pour reprendre ses esprits, mais lorsqu'il s'aperçut que les rayons du soleil entraient par les interstices des persiennes, il pensa que le jour était plus avancé encore qu'il ne l'était en réalité. Je lui dis que Lucie dormait toujours, mais je lui avouai peu à peu que nous craignions, Van Helsing et moi, que la fin ne fût proche. Se couvrant le visage des mains, il se laissa glisser à genoux contre le sofa. Il demeura ainsi quelques minutes en prière, la tête enfouie dans les mains et les épaules secouées par les sanglots. Pour qu'il se relevât, je le pris par la main. « Allons, mon vieil ami, lui dis-je, soyez courageux, ne serait-ce que pour elle. » Dès que nous entrâmes dans la chambre de Lucie, je vis que Van Helsing, toujours plein d'attentions délicates, avait fait en sorte que tout eût l'air aussi naturel, j'allais dire aussi gai, que possible. Il avait même brossé les cheveux de Lucie, répandus sur l'oreiller, avec leurs beaux reflets, pareils à ceux de la soie. Nous étions à peine entrés qu'elle ouvrit les yeux, et voyant son fiancé, elle murmura doucement « Arthur, mon amour, comme c'est bien que vous soyez là !» Il se penchait pour l'embrasser, mais Van Helsing le retint. « Non, murmura-t-il, non, pas encore. Mais prenez-lui la main, cela la réconfortera bien davantage. » Arthur lui prit donc la main et s'agenouilla près du lit. Malgré tout, elle paraissait encore jolie, la douceur de ses traits s'harmonisant avec la beauté angélique de ses yeux. Peu à peu, ses paupières se fermèrent et elle s'endormit. Pendant quelques moments, sa poitrine se souleva, s'abaissa lentement, régulièrement. À la voir respirer, on eût dit un enfant fatigué. Puis, petit à petit, se fit à nouveau ce changement étrange que j'avais déjà remarqué au cours des dernières heures. Sa respiration devint difficile, entrecoupée de râles. Sa bouche s'entr'ouvrit et les gencives blanches retirées rendaient les dents plus longues et plus pointues que jamais. Alors, dans un état proche de l'inconscience, elle ouvrit les yeux, le regard à la fois triste et dur, mais ce fut d'une voix douce et voluptueuse qu'elle répéta « Arthur, oh mon amour, je suis si heureuse, comme c'est bien que vous soyez là. Embrassez-moi !» Arthur se pencha à nouveau pour l'embrasser, mais à cet instant, Van Helsing, qui comme moi avait trouvé insolite le ton sur lequel la malade avait parlé, des deux mains le saisit par les épaules, le fit reculer d'un geste si violent que je m'aperçus avoir ignoré jusque-là qu'il avait tant de force, et l'envoya presque à l'autre bout de la chambre. « Malheureux, ne faites pas ça » s'écria-t-il. « Ne faites jamais ça, par pitié pour votre âme et pour la sienne !» Arthur resta interdit l'espace d'un moment, ne sachant que dire ni que faire. Mais à peine se fut-il ressaisi, et avant même de protester contre le geste apparemment impitoyable du professeur, il se souvint des circonstances et continua à demeurer silencieux. Il attendait. Van Helsing et moi ne quittions pas Lucie des yeux. Nous vîmes comme une convulsion de rage passer sur ses traits, et ses dents pointues se rejoignirent avec bruit, comme si elle avait mordu quelque chose. Puis, encore une fois, les yeux se refermèrent, la respiration devint difficile. Mais elle rouvrit bientôt les yeux, qui avaient repris toute leur douceur, et sa pauvre petite main blanche et décharnée chercha celle de Van Helsing. L'attirant à elle, elle la baisa. « Mon ami incomparable, lui dit-elle d'une voix faible, tremblante d'émotion indicible, mon ami incomparable qui êtes aussi le sien. Oh, veillez sur lui et à moi, donnez le repos. » « Je vous le jure, répondit le professeur avec gravité, en s'agenouillant contre le lit et en faisant un serment. Puis, se tournant vers Arthur, « Venez, mon enfant, lui dit-il, prenez-lui la main et déposez un baiser sur son front. Un seul, vous m'entendez ?» Leurs regards se rencontrèrent au lieu de leurs lèvres. et c'est ainsi qu'ils se quittèrent. Les yeux de la jeune fille se fermèrent, et Van Helsing, qui avait observé attentivement pendant les derniers moments, prit Arthur par le bras et l'éloigna du lit. On entendit encore quelques râles, puis plus rien, plus la moindre respiration. « C'est fini, » dit Van Helsing, « tout est fini. » J'emmenai Arthur, descendis avec lui au salon où il se laissa tomber dans un fauteuil, et le visage dans les mains se mit à sangloter. À le voir ainsi, moi-même, je perdis presque tout courage. Pourtant, j'allais rejoindre Van Helsing, que je trouvais toujours auprès de Lucie, et continuant à le regarder, apparemment plus intrigué que jamais. Aussitôt, je remarquai que la mort avait rendu à la pauvre enfant un peu de sa beauté. Ni ses joues, ni son front n'étaient plus tirés. Même ses lèvres avaient perdu leur pâleur de cadavre. On eût dit que le sang, dont le cœur maintenant n'avait plus besoin, était venu colorer les lèvres pour atténuer l'effrayant aspect de la mort. Alors qu'elle dormait, nous la croyons mourante. Maintenant qu'elle est morte, elle a l'air de dormir. Je me tenais à côté de Van Helsing et je lui dis « Enfin, la pauvre petite est en paix. Pour elle, les souffrances sont finies. »« Non, hélas, » murmura-t-il en tournant la tête vers moi. « Non, hélas, elles ne font que commencer. » Je lui demandais ce qu'il voulait dire. Hochant la tête, il me répondit « Il est trop tôt pour agir. Attendons. Voyons ce qui va se passer. » Chapitre 13. Journal du docteur Seward. Nous décidâmes que les funérailles auraient lieu dès le surlendemain, afin que Lucie et sa mère fussent enterrées ensemble. Je m'occupais de toutes les lugubres formalités. Les employés de l'entrepreneur des pompes funèbres, je pus m'en rendre compte, étaient affligés ou dotés de la douceur obséquieuse de leur patron. Et même la femme qui procéda à la toilette mortuaire prit un ton à la fois confidentiel et professionnel pour me déclarer en sortant de la chambre de la pauvre Lucie. « Elle fait une très belle morte, monsieur. C'est vraiment un privilège que de s'occuper d'elle. Ce n'est pas trop de dire qu'elle fera honneur à notre firme. » Van Helsing, je le remarquais, ne s'éloigna pas de la maison. Nous ne connaissions pas les parents des défunts et, comme pendant la journée du lendemain, Arthur devait s'absenter pour assister à l'enterrement de son père, il nous fut impossible d'avertir aucun membre de la famille. Van Helsing et moi prîmes donc la responsabilité d'examiner tous les papiers que nous trouvâmes. Le professeur voulut tout particulièrement voir lui-même ceux de Lucie. Je lui en demandai la raison, car je craignais que, étant étranger, il ignorât certains détails de la loi anglaise, et que de ce fait il pût nous entraîner en certaines difficultés. « Vous oubliez, me répondit-il, que je suis docteur en droit aussi bien que docteur en médecine. Mais la loi n'a que faire ici. Vous vous en rendiez parfaitement compte quand vous me disiez qu'il fallait éviter une enquête. Et encore, s'il ne s'agitait que d'éviter une enquête. Nous trouvons peut-être d'autres documents, comme celui-ci. » Tout en parlant, il avait pris dans son calepin les feuillets que Lucie avait gardés sur elle, puis que, dans son sommeil, elle avait déchirés. « Si vous pouvez apprendre qui est le notaire de Madame Westenra, écrivez-lui ce soir, en lui envoyant tous les papiers concernant sa cliente. Quant à moi, je passerai toute la nuit soit dans cette chambre, soit dans l'ancienne chambre de Mademoiselle Lucie, car il y a encore des recherches que je veux faire moi-même. Il ne faut pas que ce qu'elle aurait pu laisser soit découvert par des étrangers. » J'allais donc remplir la tâche qui m'était assignée, et moins d'une demi-heure plus tard, j'avais trouvé le nom et l'adresse du notaire de Madame Westenra. Tous les papiers de la pauvre dame étaient parfaitement en ordre. Ses volontés concernant les funérailles, notamment, y étaient clairement formulées. Je venais à peine de refermer le pli, quand Van Helsing, à ma grande surprise, entra dans la pièce. « Puis-je vous aider, John ?» me demanda-t-il. « Je n'ai plus rien à faire ici, et si vous le désirez, vous pouvez disposer de moi. » « Vous avez donc trouvé ce que vous cherchez ?»« Je ne cherchais rien de bien précis. J'espérais seulement trouver quelque chose, et j'ai trouvé quelques lettres et le début d'un journal. Je les ai pris, et jusqu'à nouvel ordre, nous n'en parlerons pas. Je verrai demain soir ce pauvre garçon, et alors, s'il m'y autorise, nous utiliserons l'un ou l'autre de ces documents. » « À présent, John, reprit-il quelques instants plus tard, je crois que nous pouvons aller au lit. Nous avons besoin, vous et moi, de repos. » De sommeil. Demain, nous aurons beaucoup à faire, mais pour ce soir, c'est bien tout, hélas. Cependant, nous allâmes encore jeter un coup d'œil dans la chambre où reposait la pauvre Lucie. L'entrepreneur des pompes funèbres, désireux de ne rien négliger du travail que l'on attendait de lui, avait transformé la chambre en chapelle ardente. On pouvait y voir une profusion de fleurs blanches qui tendaient à rendre le spectacle moins pénible, autant que faire se pouvait. Le linceul recouvrait le visage de la morte. Quand le professeur en souleva doucement le bout, tous deux nous fûmes surpris par la beauté des traits parfaitement éclairés par les grands cierges. Dans la mort, Lucie était redevenue aussi jolie que nous l'avions connue avant sa maladie. Les heures écoulées depuis qu'elle avait rendu son dernier soupir n'avaient fait que lui rendre cette beauté de la vie au point que, réellement, je doutais de me trouver devant un cadavre. Le professeur, lui, semblait réfléchir gravement. Il ne l'avait pas aimée comme je l'avais aimée, et les larmes ne lui remplissaient pas les yeux. « Attendez-moi ici, » me dit-il soudain, et il quitta la chambre. Quand il revint, il tenait à la main des fleurs d'ail qu'il avait prises dans une caisse que l'on avait déposée dans le corridor, mais qui n'avait pas encore été ouverte. Il plaça ses fleurs un peu partout, parmi les autres, de même qu'autour du lit. Puis il prit sous le col de sa chemise une petite croix d'or qu'il mit sur les lèvres de la morte. Le linceul recouvrant à nouveau le visage, nous nous retirâmes. Je me déshabillai dans ma chambre quand, frappant à la porte et entrant presque aussitôt, Van Helsing me dit « Demain, je voudrais que vous m'apportiez, avant le soir, des instruments pour une autopsie. »« Ah, nous devons procéder à une autopsie ?»« Oui et non. Je veux, il est vrai, faire une opération, mais pas celle à laquelle vous pensez. Laissez-moi vous expliquer. Seulement que personne n'en sache rien, n'est-ce pas ? Je crois qu'il nous faut lui couper la tête et aussi lui enlever le cœur. »« Quoi ? Vous, un chirurgien, seriez-vous choqué? Vous, que j'ai vu opérer d'un cœur si courageux et d'une main si ferme des malades dont la vie ne tenait à un fil, cependant que tous vos condisciples frémissaient? Oh, pardonnez-moi, je ne dois pas oublier, mon cher John, que vous l'aimiez. Aussi est-ce moi qui opérerai. Vous, vous m'assisterez. J'aurais désiré le faire dès ce soir, mais cela est impossible, à cause d'Arthur. Il reviendra ici, demain, après l'enterrement de son père, et évidemment, il voudra encore la voir. Mais quand on aura fermé le cercueil et que tout le monde dormira dans la maison, nous viendrons, vous et moi, rouvrir le cercueil pour faire l'opération. Puis nous remettrons tout en place, de sorte que personne ne s'apercevra de quoi que ce soit. Mais vraiment, à quoi tout cela peut-il servir? La pauvre enfant est morte. Pourquoi lui ouvrir le corps sans nécessité? Et s'il est inutile de faire une autopsie, si cela ne peut rien apporter, ni à la morte, ni à nous, ni à la science, ni même à la connaissance humaine, à quoi bon? Ce serait monstrueux. Il me mit la main sur l'épaule et me répondit, la voix pleine de tendresse. Mon cher John, je comprends votre chagrin et je vous plains de tout mon cœur. Je vous aime d'autant plus, d'ailleurs, que votre douleur est plus profonde. Si je le pouvais, je ferais mienne l'épreuve que vous devez supporter. Toutefois, il y a des choses que vous ignorez encore, mais que vous connaîtrez bientôt, et vous me bénirez alors de vous les avoir fait connaître, bien que ce ne soit pas des choses fort réjouissantes. John, mon garçon, voilà des années que vous êtes mon ami. M'avez-vous jamais vu accomplir une action sans avoir pour cela une raison péremptoire? Je puis me tromper, je ne suis qu'un homme, mais je crois à tout ce que je fais. N'est-ce pas justement pour cela que vous m'avez appelé ici? Oui. N'avez-vous pas été étonné, scandalisé, quand j'ai empêché Arthur d'embrasser sa fiancée, alors qu'elle mourait, et l'ai brusquement éloignée du lit? Oui. Et pourtant, vous avez vu comme elle m'a remercié, en me regardant de ses beaux yeux qui allaient se fermer à jamais, en me parlant de sa voix si faible, et en portant à ses lèvres ma vieille main rugueuse? Oui. Et ne m'avez-vous pas entendu lui jurer de faire ce qu'elle me demandait? Oui. Eh bien, j'ai une bonne raison maintenant d'agir comme je veux agir. Vous avez eu confiance en moi pendant de nombreuses années. Vous m'avez cru durant les semaines qui viennent de s'écouler, alors qu'il se passait des choses si étranges que le doute, de votre part, eût été permis. Accordez-moi de me croire encore quelque temps, mon cher John. Si vous vous y refusez, je devrais bien vous dire dès à présent tous mes soupçons, mais je me demande si cela est souhaitable. D'autre part, si je commence à travailler sans avoir la confiance entière de mon ami, et que je l'ai ou non, je veux vérifier par l'expérience si je me trompe ou si je suis dans le vrai, je travaillerai le cœur lourd et avec le sentiment d'être seul, alors que j'ai un tel besoin d'aide et d'encouragement. » Il s'interrompit un moment, puis ajouta « Croyez-moi, mon cher John, des jours terribles nous attendent. Ne soyons à deux qu'un seul homme pour mener à bonne fin ce qu'il faut à tout prix entreprendre. » Je lui pris la main et lui promis de lui garder toute ma confiance, comme par le passé. Je tins ma porte ouverte pour le laisser sortir, et je le suivis des yeux jusqu'à ce qu'il fût rentré dans sa propre chambre et eut refermé sa porte. À ce moment, je vis l'une des servantes traverser le palier, elle ne me vit pas car elle me tournait le dos, et rentrer dans la chambre où reposait Lucie. J'en fus profondément touché. Le véritable attachement est si rare, et nous sommes si reconnaissants à ceux qui en font preuve spontanément envers les êtres que nous aimons. Voilà une pauvre fille qui surmontait l'horreur que sans nul doute lui inspirait la mort pour aller veiller auprès du cercueil où dormait sa jeune maîtresse, afin que le pauvre corps ne restât pas seul avant d'être porté au lieu du repos éternel. »